carrefour des arts. À la redécouverte du théâtre musical. Une émission proposée par Christophe Mirambeau sur Canal Académie.
Sacha Guitry et la comédie musicale, suite de l'émission qui retrace les aventures de Sacha et du théâtre de divertissement en musique. C'est à l'occasion de Au Mon Bal Inconnu, créé au Bouffe Parisien pour les fêtes de fin d'année 1933, que Sacha Guitry virevolte sur un sujet d'actualité. Les petites annonces de rencontres matrimoniales ou pas, qu'écrivent et auxquelles répondent toute une famille, bonne comprise, une famille de bons commerçants, sans savoir qu'ils se répondent les uns les autres. Et notre Sacha se laisse aller, encore plus qu'ailleurs, à ses fantaisies d'écriture qu'il a développées en compagnie de son ami Albert Villemetz dans le domaine de la revue satirique. Première fantaisie d'abord. Guitry, pour complaire à celle qui a remplacé dans sa vie et son cœur Yvonne Printemps, dont il est en train de divorcer, Mademoiselle de Lubac, écrit un rôle muet. Un rôle muet dans une comédie musicale, voilà qui est d'un humour très Guitry. Mais pourquoi donc ? La chose est simple. Jacqueline de Lubac déteste René Coval, un artiste que le public adore et qui a marqué de son sceau toutes ses créations de comédie musicale et d'opérette, de même que dans les opérettes filmées par la Paramount. Puisque René Coval fait partie de la troupe des Bouffes Parisiens, Sacha est obligé de le prendre et d'écrire pour lui dans « Au Mon Bal Inconnu », agacement de Mademoiselle de Lubac. Aussi, Coval se retrouve-t-il avec un rôle muet pendant trois actes et n'ouvre la bouche qu'à l'occasion de la conclusion de la pièce, que je vous laisse découvrir.
À ma naissance, on fut surpris de mon silence et même aussi l'on s'en émut. Cet enfant gigote, il remue, disait papa, mais il se tait. Car en effet, je gigotais, je m'agitais, je remuais. Oui, mais, hélas, j'étais muet. 15 ans passèrent, oh, lentement, qui me laissèrent exactement au même point. Voyant que je ne parlais point, on finissait par s'étonner de ce long silence obstiné, et l'on disait que je muais. Hélas, mais non, j'étais muet. Et toute ma vie, malgré l'envie que j'en avais, je l'ai passée sans prononcer un mot jamais. Lorsqu'un beau jour, on m'indiqua le nom d'un médecin fameux, la nouvelle me suffoqua, qui guérissait un cas sur deux. Un cas sur deux, mon Dieu, ah si j'allais être ce cas, je fus ce cas, et je n'eus qu'à le consulter pour apprendre la vérité. C'est un vieillard des plus aimables, il me reçut, m'examina. Puis ensuite il me déclara que j'étais, hélas, incurable.
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 Oubli fatal. Oh oui, c'est vrai, pardonnez-moi, car j'oubliais le principal dans mon émoi. Mais tout de suite il ajouta, je parle de mon médecin, mais tout de suite il ajouta, ne pleurez pas, tout va très bien, tout va très bien, tout va très bien, dites-moi si je parlerai. Parlez jamais, vous resterez toujours muet, vous resterez toujours muet, mais vous pourrez vous en tirer. Voyons, docteur, vous voulez rire, comment pourrais-je m'en tirer ? Les choses que je voudrais dire, faudra-t-il toujours les écrire ? Vous n'aurez plus à les écrire, et vous pourrez vous en tirer. Eh bien, mes amis, vous voyez qu'effectivement, je m'en tire.
Comment fait-il pour s'en tirer ?
Car il s'en tire.
Car il s'en tire.
Il ne faut pas vous retirer.
Il faut
d'abord nous dire comment tu fais pour t'en tirer.
Car il s'en tire.
Car il s'en tire.
Ou je m'en tire.
C'est comment?
C'est certainement le premier muet de ma vie que j'entends.
Eh bien, je m'en vais vous le dire. Les choses que je voudrais dire, je ne peux pas, hélas, les dire. Mais je m'en tire.
Mais il s'en tire.
En les chantant.
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 Oh
oui,
non,
si. Et c'est ainsi, do, mi, sol, si, que je m'en tire.
Sacha, est-ce l'absence d'Yvonne Printemps, ne joue pas dans cette comédie musicale, contrairement à toutes les précédentes. Mais comme à la revue, Sacha s'amuse de potacheries délicieuses, se grise et nous grise du plaisir des mots. Virtuose de l'esprit, il ose ce duo des initiales. Le fameux slogan publicitaire de Sacha, LSK, c'est esqui, tout en initial, n'est pas loin. Un duo délicieusement mis en musique par Reynaldo Hahn.
Mais non, mais non.
Aussi.
Mais non.
A, B, C, D.
Allons, monsieur, veuillez finir.
D'abord, il faudrait commencer.
Je ne vais pas vous obéir.
O, B, I, C.
Monsieur, je suis très
occupé.
Et maintenant, j'en...
Et assez.
Vous m'ennuyez, vous
m'énervez.
Vous m'assommez, vous
m'embêtez. Quand on a les yeux que vous avez et que l'on n'est pas plus
âgé,
on doit, je pense, ramasser des soupirants sans se
baisser.
Convenez donc d'être
aimé
par un homme qui n'est votre
aimé
que de quelques années, pas plus. Ça vaut mieux qu'un coup de pied. J'avais juré de vous faire sourire, c'est tout ce que j'ai demandé. Vous aurez beau faire et beau dire, vous avez ri, c'est
cupidé.
Et comment ne pas goûter ce duetto? Ah, mais vous m'avez pincé le derrière, au naturel confondant, dont les lyrics portent plus que jamais la marque Guitry.
Vous m'avez pincé le derrière?
C'est en effet ce que j'ai fait. Je vous ai pincé le derrière. Dites-moi l'effet que ça vous fait.
Comment? L'effet que ça vous fait? Abominable en vérité. Car en me pinçant le derrière, jeune homme, vous m'avez traité comme la dernière des dernières.
Mais non.
Mais si.
Mais non, mais non.
Mais si, mais si. La jure est vive.
Est-elle vive?
Elle est très vive. C'est la première fois que l'on me traite ainsi.
Vous voyez qu'à la fin, madame, tout à vivre. Non, l'injure n'est pas très vive. Car si la chose vous arrive aujourd'hui pour la première fois, c'est aussi la première fois que la chose m'arrive à moi. Car en effet, ce que je vous ai fait, je ne l'avais encore jamais fait.
Et c'est bien vrai.
Je vous le jure.
Jamais, jamais.
Jamais.
Alors, la chose est en effet moins grave que je ne pensais.
Non.
Et la jure n'est pas très vive, puisque la chose nous arrive. À vous comme à moi.
À vous comme à moi.
Pour la première fois.
La première fois.
Enfin, roi du jeu de mots, Sacha s'autorise un vibrionnant final d'acte, avec cette distance toute particulière du théâtre dans le théâtre que Sacha a déjà initié dans ses revues, où les artistes jouent des personnages qui savent qu'ils sont avant tout des artistes en train de jouer des personnages d'une revue. Une distance qui donne une saveur toute particulière à ce final que nous allons entendre dans un enregistrement de l'ORTF de 1971, comme d'ailleurs les extraits précédents d'Ombre à l'inconnu que nous avons écoutés, un final d'acte 2 qui réunit Lina Dachary, Christiane Chateau, Monique Stiau dans le rôle de la bonne créée par Arletty, Dominique Tirmont, Michel Hamel, Aimé Donia, Joseph Perron, Jacques Provin, l'orchestre lyrique de l'ORTF est placé sous la direction de Jean Brebion.
Je viens vous faire mes adieux.
J'ai vendu tous mes chapeaux melons et je m'en retourne à ma mère chez mes parents.
Très bonne idée.
Ingrate.
Est-ce que vous avez des casquettes de voyage, mademoiselle ?
Je crois qu'il m'en reste encore une, monsieur.
Qu'est-ce que tu veux, l'allumette ? Écris-le.
Il veut une casquette de voyage.
Partons.
Mais je crois bien que dans ma condition modeste, il n'en est rien et que je reste.
Partons. Je m'en vais donc jusqu'à Quimper passer 8 jours avec ma mère.
Et moi, je me retire à ma mère pour continuer le métier de mon père. Et l'on ne me verra jamais plus. Mon rôle ici va s'arrêter. Si par bonheur je vous ai plu, c'est le moment de le manifester.
Moi, j'irai peut-être passer ma semaine avec mon petit cousin Germain. À moins que j'aille à Saint-Germain avec ma petite cousine Germaine.
Et moi, je m'en vais jusqu'à 3 puisqu'Henriette se marie le 3.
Et moi, peut-être irai-je à 7 car je n'ai rien à faire jusqu'au 7.
Partons.
Ou bien j'irai jusqu'à Marraine, passer 8 jours chez ma marraine. Ou bien alors dans le parrain, passer 8 jours chez mon parrain. Eh ben l'allumette, où vas-tu ?
Jamais c'est l'avance à voir la direction qu'il prend.
Irai-je à Lille ou à Privas, je n'en sais rien, mais je m'en vais. Irai-je à Tulle ou à Beauvais, je n'en sais rien, mais je m'en vais.
Lorsque l'on regarde la France, n'a-t-on pas l'embarras du choix ?
Pourtant chacun a bien le droit d'avoir une petite préférence.
Partons.
Voilà 100 fois que nous le répétons.
Partons. Mais que dit-on pour dire qu'on part sinon Partons. Jamais nous ne nous lasserons de répéter sur tous les temps. Partons. Jamais nous ne nous lasserons de dire partons.
Département qui m'est plus doux, je vous avoue que c'est le cher.
Département qui m'est plus cher, je vous avoue que c'est le dos.
Avoir de son bêtes à cornes dans le département des Deux-Sèvres.
La voix simplement que du chef dans le département de l'Orne.
L'un vous dira qu'avec Charlotte, il voudrait vivre au bord de l'eau.
L'autre vous dira qu'avec Charlotte, il voudrait vivre au bord du Lot.
Je voudrais vivre avec René dans le département du Nord.
Tandis qu'une autre avec Edgar dit qu'elle préférait Pyrénées.
Partons.
On ne peut tout de même pas dire restons puisque tout le monde sait que nous partons.
Partons. Et maintenant nous le jurons, c'est la dernière fois que nous répétons.
En outre de ces comédies musicales que nous avons évoquées, Sacha écrivit en 1930 un délicieux acte d'opéra bouffe, tout à la gloire d'Yvonne Printemps, intitulé la SADMP, Société Amicale des Messieurs Prudents. Imaginez 4 hommes qui fondent une société afin de se partager la semaine d'une cocotte, une poule de luxe, mais avant tout, une Parisienne, Yvonne, qui garde donc cependant un jour pour son amant de cœur, jeune, beau et pauvre. La musique de Louis Bates, musicien délicat et rassé, trop tôt disparu, et d'une exquise finesse, et les vers de Guitry plus délicieux que jamais.
Mais il existe une chose qu'on ne peut pas discuter. été, ce qui ne dure jamais qu'une saison, puis change. Et c'est la mode, d'ailleurs reconnaissons qu'elle soit tout non commode, qu'on ne la discute jamais quand on peut la porter. Sourire aux lèvres et ses drôles, vous dites en l'apercevant, mais il n'y a qu'à voir les choses qu'elle porte et surtout comment elle les porte. Vous m'écart, vous prenez les paris, si cette femme-là n'est pas de Paris, je veux que le diable m'emporte. Madame Lanvin, Madame Gallo, Madame Génie, et vous Chanel, vous venez d'avoir un trait de génie, et je comprends qu'on vous décore, on vous adore. La taille enfin reprend sa place. Gallo, Génie, Chanel, Lanvin, tous les hommes vous rendent grâce. Ils vont savoir où mettre leur main. Lorsque les couturières étaient des couturiers, nous avions sur nos robes un tas de petits hommes, des rubans, des frelons, des nœuds et des paniers, et des coussins qu'on nous mettait sur le derrière. Les rubans, les frelons, tout ça s'est envolé. Les femmes ont créé pour nous la mode garçonnière, et même on a fini par supprimer le derrière. Depuis que les couturières remplacent les
Enfin, profitons de cette émission pour nous pencher sur le cas de Florestan Ier, prince de Monaco, opérette de Sacha Guitry et Albert Wilmette, dont la carrière éphémère, les émeutes du 6 février 1934 ont donné un coup mortel à l'ouvrage, qui a brutalement arrêté sa course vers le succès, mérite mieux que l'oubli où la pièce est tombée, malgré le tube absolu que fut et est encore Amusez-vous, Grand Prix du disque 1934, un foxtrot qui fut le triomphe d'Henri Garat.
Que ça serait charmant sur terre, un pays où les gens ne viendraient que par plaisir pour se distraire, où dans ce but tout serait fait. Combien ça serait sympathique, un pays où l'on ne s'occuperait ni d'affaires ni de politique, où sans arrêt l'on se reposerait. Et vraiment quelle joie souveraine quand on est prince de Monaco, de pouvoir dire à tous ceux qui viennent de Londres ou bien de Chicago. Amusez-vous, foutez-vous tout, la vie entre nous est si brève. Amusez-vous comme des fous, la vie est si courte après tout. Car l'on n'est pas ici pour se faire du souci, on n'est pas ici-bas pour se faire du tracas. Amusez-vous, foutez-vous tout, la vie passera comme un rêve. Faites-les sans coup, dépensez tout, prenez la vie par le bon bout. Pour que les gens voient tout en rose ou tout en bleu à Monaco, la première chose qui s'impose est de supprimer tous les impôts. Car dans la comédie humaine, où tous les rôles ont leur raison, il n'y en est qu'un seul qui me gêne, oui c'est le rôle des contributions. Pour un roi, quelle joie adorable, quelle charmante innovation, de pouvoir à tous ses contribuables envoyer cette sommation. Amusez-vous, foutez-vous tout, La vie entre nous est si brève. Amusez-vous comme des fous. La vie est si courte après tout. Car l'on n'est pas ici pour se faire du souci. On n'est pas ici bas pour se faire du tracas. Amusez-vous comme des fous. La vie passera comme un rêve. Faites-les sans coups et pensez-vous. Prenez la vie par le bon bout. On n'est pas ici bas pour se faire du tracas. Amusez-vous comme des fous. La vie passera comme un rêve. Faites-les tranquilles, dépensez-vous. Prenez la vie par le bon bout.
Jetons un œil sur l'argument de ce Florestan Ier, prince de Monaco, opérette en trois actes, lyrics d'Albert Winmetz, dialogue et pièce de Sacha Guitry, créé le 9 décembre 1933 au Théâtre des Variétés. Avec l'acteur fétiche de ce théâtre, le grand comique Paulet, dans le rôle de Rosambeau, dans les rôles féminins d'importance, le très joli rôle de Mésange était joué par Jacqueline Francel, tandis que le rôle titre de la pièce, donc le prince Florestan, était joué par le jeune premier du temps, coqueluche de ces dames, Henri Garat. Il y avait autour d'eux la duchesse de Mazarin, qu'interprétait la cantatrice de l'opéra Geneviève Vix, de même que Sinoël et Henri Laverne, celui de Bach et Laverne, oui, dans le rôle de Simon Hertz. Alors, jetons un petit œil sur l'argument de cette pièce. Nous sommes à la fin du règne de Napoléon. En 1814, Florestan Grimaldi nous est présenté comme un grand seigneur qui adore jouer la comédie et qui, contre le gré des siens, s'entête à vouloir s'engager dans la troupe du théâtre des Variétés. Il ne demande pas d'appointement et il est accueilli avec joie par le comédien Rosambeau, sa femme André et leurs deux filles, Mésange et Isabelle. Celles-ci sont toutes deux courtisées par l'acteur Ferdinand, garçon au physique avantageux qui ne sait laquelle des deux il préfère. La duchesse, mère de Florestan, surgit sur le plateau au cours des répétitions et enlève virilement son fils après lui avoir administré une retentissante paire de gifles. S'il veut à tout prix un rôle, qu'il s'enrôle dans l'armée française. Florestan est ainsi contraint par sa mère à quitter la troupe de comédiens pour celle des soldats. Les mois passent. La troupe de Rosambeau est en tournée et, sur sa route, elle rencontre trois petits soldats pitoyables, aux uniformes en loques, mais qui chantent vaillamment la marche de Margot.
À Quimper, je connais Margot, une jolie blonde. Elle a les plus beaux yeux du monde, le plus gentil bonnet. Mais l'empereur m'a dit, l'amour passe après la guerre. Prends ton sac, ton fusil en pierre. Alors je suis parti. Margot, j'adore ton petit bonnet. Margot, ton bonnet blanc si coquet. Il est ma joie et mon seul bonheur. À lui, j'ai donné tout mon cœur. Mais quand le petit ondu me dit, suis-moi, suis-moi mon petit. Je suis tout prêt à donner ma vie. Margot, pour ton petit chapeau. Tout seul à Marengo, ayant pris une redoute, je pensais je pourrais sans doute aller revoir Margot. Mais l'empereur m'a dit, il faut partir pour l'Espagne, il faut nous remettre en campagne, et je suis reparti. Margot, j'adore ton petit bonnet. Margot, ton bonnet blanc si coquet. Il est ma joie et mon seul bonheur. À lui, j'ai donné tout mon cœur. Mais quand le petit ondu m'a dit, suis-moi mon petit. Je suis tout prêt à donner ma vie. Margot, pour ton petit chapeau. Ayant pris de drapeau au siège de Saragosse, j'espérais le cœur à la noce pouvoir revoir Margot. Mais l'empereur m'a dit, partons là-bas dans l'Autriche, Metternich veut me jouer des niches, et je suis reparti. Margot, j'adore ton petit bonnet. Margot, mon bonnet blanc si coquet. Il est ma joie et mon seul bonheur. À lui, j'ai donné tout mon cœur. Mais quand le petit ondu m'a dit, suis-moi,
suis-moi mon petit. Je suis tout prêt à donner ma vie. Margot, pour ton petit chapeau. Voilà 10 ans bientôt que voltigeur je voltige. J'ai vu le Danube et la Dige. Je n'ai pas vu Margot. Et quand je suis embêté, je me dis fumant ma bouffarde. C'est forcé qu'étant dans sa garde, il désire nous garder. Margot, j'adore ton petit bonnet. Margot, ton bonnet blanc si croquet. Il est ma joie et mon seul bonheur. À lui, j'ai donné tout mon cœur. Mais quand le petit ondu m'a dit, suis-moi, suis-moi mon petit, je suis tout prêt à donner ma vie, Margot, pour ton petit chapeau. À donner ma vie, Margot, pour ton petit chapeau.
Florestan est l'un de ces 3 soldats et il se fait reconnaître. L'armée est en déroute, l'empereur Napoléon a abdiqué. Florestan peut donc se vouer à sa passion, reprendre la vie de comédien et revivre les tendres sentiments que lui inspire Mésange. Au cours d'une représentation, Florestan est une nouvelle fois arraché au théâtre. Caroline, sa cousine, lui apprend qu'il vient d'être nommé prince de Monaco. Son frère aîné, le prince héritier, est mort. Nous voici maintenant au palais princier de Monaco. Florestan Ier est entouré de ses chers comédiens, dont il a fait les ministres. Il supprime les impôts, car il veut avoir des sujets heureux, un pays où il n'y aurait pas que des gens fous de joie. Mais Florestan finit par s'ennuyer au château. La principauté est grande comme un mouchoir de poche et compte en tout 10aine de sujets. Le trésor est vide, forcément. Par chance, un étranger arrive au château, c'est Siméon Hertz, chassé de France et qui se réclame de Blaise Pascal pour présenter un nouveau jeu de hasard, la roulette. Il propose au prince d'y installer son jeu et Florestan accepte. Le premier devoir d'un souverain n'est-il pas d'abord et par tous les moyens d'assurer le bonheur de son peuple? Toutefois, il fixe une règle à ce jeu. Il ne veut pas que les monnaies casquent. Rosambeau et sa troupe retournent à l'heure très tôt. Florestan reste dans son palais pour y jouer un rôle de prédilection, celui de prince d'un pays transformé en royaume d'opérette. Le matériel de cette pièce a malheureusement disparu et je n'ai retrouvé que les photostats des manuscrits autographes de Werner Richard Heymann, le recompositeur de cette ravissante pièce. Intéressons-nous à la genèse de l'ouvrage. La scène se passe en 1933 au Moulin Rouge Cinéma avant l'intermède musical qui précède la projection. Car à ce moment-là, le Moulin Rouge n'est plus un théâtre de revue mais a été transformé en cinéma. Le concierge intercepte vivement Pils et Abbé qui vont entrer en scène. Un monsieur désire vous parler, un monsieur Albert, il est de Metz et à ce qu'il dit, connaît pas, qu'il attende dans la cour, nous raconte Georges Tabé dans ses mémoires. C'est qu'il pleut fort. En sortant du moulin, nous avons vu dans la cour sombre, battue par la pluie, le visiteur qui nous avait attendu stoïquement depuis tout ce temps. Excusez-nous, monsieur Albert, je crois, est de Metz. Il se mit à rire en s'ébrouant comme un chien mouillé. C'est comme ça que le concierge m'a présenté. J'aurais dû vous faire passer ma carte. Sur le moment, je n'en ai pas trouvé, mais depuis, j'ai eu le temps de chercher. Voilà. Il nous tendit un carton détrempé sur lequel nous avons lu Albert Villemetz, directeur du théâtre des Bouffes Parisiens. Horrifiés du stupide malentendu, nous en faisions trop maintenant, le recouvrant de nos pardessus, de nos écharpes et de nos chapeaux jusqu'à la brasserie voisine, chez Graff. Assis devant un café chaud, l'atmosphère se détendit. Mais ce n'était pas pour son compte qu'Albert Villemetz nous avait attendus si longtemps sous la pluie. Sacha Guitry venait de divorcer d'avec Yvonne Printemps, pour qui il avait écrit tant d'opérettes. Il voulait maintenant prouver à l'infidèle que même sans sa voix de rossignol et son charme prodigieux, il pouvait renouveler ses exploits. Nous étions si ignorants que nous ne savions pas qui était Sacha Guitry. Nous connaissions mieux Louis Armstrong, Bing Crosby et Henri Gara. Nous avons osé avouer notre ignorance. « Vous connaissez Henri Gara ? Ça suffit largement, justement. Sacha a écrit une opérette intitulée « Florestan Ier pour Gara ». Et les choses ne semblent pas s'arranger. Vous devriez aller voir Sacha aux variétés où il joue. Il meurt d'envie de vous voir. » Villemetz était le meilleur diplomate de la profession. Dans le divorce Sacha-Yvonne Printemps, il avait réussi le tour de force de ne se brouiller avec aucun des deux adversaires. Il y avait sûrement quelque chose d'important derrière son conseil. Le fait est que Sacha pense au jeune duettiste de 24 ans pour jouer Florestan et Ferdinand. Ils sont des vedettes lancées par la chanson de Mireille, couchées dans le foin, puis par Henri Varnat, qui leur offrit immédiatement un engagement au Casino de Paris dans la revue de Miss. Mais entre le moment de la rencontre avec Wilmette et la visite de Pilcet Abbé à Sacha, Henri Gara avait enfin donné son accord pour jouer la pièce. Et c'est ainsi Gara qui fit un peu la preuve qu'Yvonne était irremplaçable pour Sacha. Sacha écrivit un très intéressant texte pour le programme de la pièce afin de donner les sources de son inspiration. « Oui, mes personnages sont historiques et ma pièce l'est presque. Un soir au Théâtre de la Madeleine, il y a de cela 2 ans, j'ai vu entrer dans ma loge un homme, un étranger que je n'avais jamais rencontré de ma vie. C'était Monsieur Sam Barlow. Il me dit « Monsieur, avez-vous lu le Figaro de ce matin ?»« Non, monsieur, le voici, lisez-le. Il me semble que vous y découvrirez un ravissant sujet de pièce. » Et je lus l'article suivant. « Une curieuse aventure de Florestan Ier, prince de Monaco, 1841-1856. » Au moment où l'on a rappelé la généalogie de l'antique famille des Grimaldi, à laquelle appartiennent les princes de Monaco, il nous a paru curieux de raconter ici une aventure de jeunesse peu connue, tout à l'éloge du reste de celui qui en fut le héros, du prince Florestan Ier, le grand-père du prince Albert et l'arrière-grand-père du prince Louis. Le jour où l'on avait conduit à sa dernière demeure le modeste comédien qui avait résumé en lui le type le plus complet des comédiens nomades et burlesques, les journaux annoncèrent que cet humble corbillard avait été suivi par 3 reines de théâtre, Mademoiselle Georges, Madame Dorval et Madame Albert, et un prince régnant. Quel pouvait avoir été ce prince et par suite de quelles circonstances avait-il été amené à venir saluer la dépouille de Rosambeau, car il s'agissait du fameux Minet de Rosambeau, une des dernières figures les plus originales que l'on ait vues depuis le roman comique. Rosambeau, dont la vie n'avait été qu'un long tissu d'aventures dans lesquelles l'art, le talent, la misère, l'insouciance, le rire et les pleurs s'étaient tout à la fois heurtés. Rosambeau, c'est-à-dire Hoffmann, Scarron, Gil Blas, la risole et la rancune, le sublime coudoyant le ridicule, la résignation joyeuse, l'esprit toujours présent, la tête prompte, le cœur excellent, des fautes quelquefois qu'on excuse, des défauts qui amusent. Comment Rosambeau avait-il connu le prince Florestan, ou mieux, comment le prince avait-il pu lui témoigner quelque affection ? À la clé de cette énigme nous fut donnée par le docteur Poumiès de la Cibouti, qui fut pendant 40 ans l'ami du prince et qui recueillit cet aveu à son lit de mort. « On a fait sur mon compte courir bien des bruits ridicules, lui dit-il. La vérité, c'est que j'ai appartenu 4 ans au théâtre. En cherchant bien, on retrouverait encore le nom de Florestan sur des programmes. Je jouais des rôles d'amoureux et j'étais très applaudi. Ma voix était douce et agréable et j'avais par-dessus tout une tenue parfaite. De ces premières années, il m'est resté une sorte de passion pour tout ce qui tient au théâtre. J'en aurais eu un chez moi si je n'avais rencontré dans ma famille une opposition insurmontable. J'ai été lié avec les acteurs les plus haut placés. J'ai vécu dans leur intimité et jamais je n'ai trouvé des hommes plus aimables et de meilleure compagnie. Tout ceci demande une explication, continue Guitry. La République française de 1792 avait dépossédé la dynastie des Grimaldi de la principauté de Monaco et Honoré IV, prince régnant, s'était réfugié à Paris, dépourvu de toute ressource. Son second fils, Florestan, âgé alors de 6 ans, l'y avait suivi et y fut élevé. Devenu adolescent, grand et fort pour son âge, il avait couru les théâtres du boulevard du Temple et, pour y pénétrer, n'avait trouvé rien de mieux que de s'y présenter comme figurant, humble fonction qu'il ne reniait pas par la suite. Puis, on avait remarqué sa bonne tenue, sa distinction native. On lui confia les rôles de jeunes amoureux au Théâtre de la Cité, situé en face du Palais de Justice, au Théâtre du Marais, rue Culture Sainte-Catherine, aujourd'hui rue de Sévigné. Le 15 août 1804, il n'avait alors que 19 ans, il remplit le rôle du roi de Prusse dans une pièce intitulée « Une journée de Frédéric II ». Il avait passé également par l'ambigu. Que l'on ne s'étonne donc plus s'il avait connu Rosambeau, également de souche noble, et dont le père avait été ruiné par la Révolution. Tour à tour tambour à l'armée d'Italie, professeur d'escrime et de mathématiques, perruquier à Londres, chanteur à Toulouse, mauvais cuisinier à l'ambassade de France à Constantinople, débuta à la Comédie-Française, acteur partout et partout insurpassable. Acteur partout et partout supportable, Rosambeau était devenu acteur légendaire, se taillant des jabots et des manchettes en papier, se cirant les jambes à Metz pour remplacer des banois absents, empruntant son uniforme à un gendarme à Lille pendant la représentation et oubliant de le lui rendre à la sortie. Brave homme chargé de famille, toujours obligeant et prêt à partager son pain avec plus malheureux que lui. L'Empire fit une pension au prince de Monaco et la Restauration leur rendit leur principauté. Honoré IV, père de Florestan, eut pour successeur son fils aîné, Honoré V, lequel céda la place à son tour à son frère cadet, Florestan Ier, qui n'avait pas oublié son vieux camarade Rosambeau. Pourtant, cette confession faite au bon docteur Poumiès de la Cicotti, qui nous l'a transmise, avait été accompagnée d'un autre aveu. J'ai beaucoup écrit, lui avait dit le prince, mais je n'ai rien oublié. J'ai d'abord des mémoires, des comédies, des vers, des relations de voyage. Qui publiera les mémoires de Florestan Ier ? Termine l'auteur de l'article cité par Sacha, Henri Lyonnais. Extrêmement alléché par la lecture de cet article, poursuit Sacha, j'ai fait d'abord quelques recherches, c'est-à-dire quelques trouvailles historiques. Aidé par M. Labande, membre de l'Institut, et archiviste de son Altesse Sérénissime, le prince Louis de Monaco, quelques mois plus tard, j'ai fait une comédie dont les couplets sont de mon bien cher ami Albert Winmetz, puisqu'il est le maître des lyrics et puisqu'il m'a présenté M. Werner Richard Heymann, le compositeur déjà célèbre chez nous, du Congrès s'amuse et des gars de la marine. Mais qu'aujourd'hui, l'on comprenne pourquoi je dédie Florestan Ier, prince de Monaco, à M. Sam Barlow. Sacha Guitry. Henri Malherbe fit le 13 décembre 1933, dans le feuilleton du temps, une judicieuse et objective analyse des qualités et défauts de la pièce de Guitry et Wilmetz, qui résume parfaitement la nature de l'ouvrage et l'accueil qu'il reçut. Dans leur drôlerie bien observée ou trouvée, les quatre premiers tableaux de Florestan sont étincelants. Une réussite totale, le cinquième tableau traîne en longueur et nuit à l'action. Le dénouement plaît par une pointe d'émotion très habilement ménagée. Des acteurs d'autrefois sont évoqués à merveille dans leurs prétentions féroces et naïves, dans leurs déformations généreuses. Monsieur Sacha Guitry, qui ressent pour eux une sympathie fraternelle, n'y met pas trop de charge. On songe à certaines lithographies de Daumier. On peut aussi entrevoir dans quelques scènes des intentions fugitives de moralistes, sinon de philosophes. J'ajouterai que les couplets de Monsieur Albert Winmetz visent à l'effet et proviennent de sa meilleure veine. Le gigantesque succès d'Amusez-vous empêche à l'ouvrage de sombrer dans l'oubli. Émile Villermoz, au lendemain de la Générale de Presse, résume et définit toutes les qualités de l'œuvre avec une infinie précision. Il brosse un intéressant portrait du musicien de la pièce, Werner Richard Heymann. La partition de Florestan Ier est l'œuvre de l'étonnant musicien qui avait déjà eu l'occasion, dans Le Capitaine Cradock, d'étudier la baie de Monte Carlo. L'auteur des Gars de la Marine, du Congrès s'amuse et des Chemins du Paradis, ce charmant Richard Heymann, et le plus délicieusement français des musiciens étrangers qui travaillent chez nous et enrichissent nos théâtres de succès qu'il nous fallait, hier encore importés à grands frais des pays voisins. J'écrirai quelques jours la curieuse histoire de cet artiste de race, auteur d'œuvres sérieuses fort estimées, qui le condamnèrent à 10 ans de misère. Je dirai le rôle capital dans la technique du cinéma musical et je conterai le miracle qui, brusquement, fit de lui un maître du refrain populaire. Ce compositeur a le don de la trouvaille mélodique et rythmique dont la netteté et l'équilibre s'imposent immédiatement. Ce qu'il nous propose avec le concours précieux d'Albert Winmetz, spécialiste inégalable de la prosodie lapidaire, est définitif. Les auditeurs les moins musiciens fredonnent ses couplets à la seconde audition et les artistes les plus raffinés n'ont à lui reprocher ni une trivialité ni une platitude. Sa musique est aussi facile à comprendre et aussi difficile à inventer que celle d'Offenbach. Tout le monde se croit capable de découvrir les thèmes « Bon enfant » d'Orphée aux Enfers, mais personne n'y parvient. Il en sera de même de la chanson de route de Margot, du refrain « Amusez-vous », de l'air d'entrée de « Mes anges », de la valse du troisième acte, c'est-à-dire la valse de la roulette, et de tant de motifs charmants dont la clarté et la simplicité n'intimident personne, mais dont le dynamisme secret demeure inimitable. Toutes ces pages d'ailleurs finement écrites et orchestrées vont commencer demain leur tour du monde.
Thank you.
Victime de l'avenir et de M. Max Morey, le directeur du Théâtre des Variétés, explique Wilmetz dans une lettre à Werner Richard Heymann, lui annonçant le 18 avril 1934 l'arrêt définitif de l'exploitation de la pièce au théâtre et son retrait définitif de l'affiche par le directeur des Variétés. La période est troublée en cet hiver 34. Les émeutes du 6 février et les troubles politiques qui s'ensuivent ne font rien pour remplir les salles de théâtre parisiens. Et Max Morey ne soutient pas la pièce. Le 2 mars 34, Wilmetz rapporte que la salle est vide et devant le four qui s'annonce, Jacqueline Francel a hypocritement prétexté d'une série de représentations d'une opérette en province pour quitter le spectacle et se faire remplacer. C'est René Sénac, sa doublure, épouse de Raoul Labisse, le chef d'orchestre de la production, qui reprend le rôle. Henri Garat quitte à son tour la pièce, laissant pour deux représentations seulement son rôle à René Lestelli, délicieux jeune premier. Le 4 mars, Ité Missa Est, Florestan et son Monaco d'opérette quittent les planches pour ne jamais y revenir. Après ce Florestan, Sacha arrêtera d'écrire pour le théâtre musical. Pourtant, il existe une exception, le dernier Troubadour, opérette prévue pour être mise en musique par Charles Trenet en 1943. Mais ce dernier Troubadour, interdit par la propagande Staffel, est inédit et inachevé, ainsi que l'étonnante histoire qui l'entoure. Je vous propose de venir en découvrir la teneur en ma compagnie à l'auditorium de la très grande bibliothèque François Mitterrand le 26 novembre prochain. Un concert exceptionnel dans lequel vous entendrez également un très très grand nombre de raretés et d'inédits absolus de ce Guitry musical que nous avons évoqué aujourd'hui.